Qui veut acheter le football belge se met en mode radio.
Les intégrales.
De manière générale, qu'est-ce qu'une licence pour un club? Pourquoi un club doit-il en avoir une?
C'est un système qui a été mis au point pour ne pas justement qu'il y ait des catastrophes qui surviennent dans le football belge en termes financiers. Et donc, la commission des licences est une commission qui émane de la Fédération belge de football. Et je pense qu'elle est composée de 10 membres qui sont des jurys, enfin d'une liste de 10 personnes, des juristes, des avocats, des révisés de l'entreprise. Il y en a 5 qui sont convoqués parmi la liste pour chaque audience, si j'ose dire. Et à partir du moment où il y en a 3, c'est bon, la commission peut travailler. Donc, il y a alors aussi un manager des licences, qui est Niels van Brantegem, et qui est responsable de la commission, comme son nom l'indique. Et donc, lui, il envoie tous les ans un courrier à tous les clubs professionnels, c'est-à-dire les 16 clubs de division 1A, les 8 clubs de division 1B, mais aussi les 16 clubs de division 1 amateurs pour ceux qui veulent monter dans le monde professionnel, puisque donc en Belgique, nous avons 24 clubs professionnels, nous avons une division 1 amateur qui a un statut un peu hybride, puisque certains sont purement professionnels, d'autres plus amateurs, avec uniquement 7 joueurs professionnels sous contrat. Et donc, les clubs reçoivent un courrier vers le mois de janvier chaque année, et ils ont une véritable checklist à satisfaire, donc ils doivent prouver qu'ils sont en ordre à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune dette fédérale, c'est-à-dire à l'égard de la Fédération belge de football, mais aussi à l'égard de l'ONEM, de l'ONSS, de la TVA, qu'il n'y a pas de retard de paiement de facture à des fournisseurs, à des créanciers. Et alors, tout le monde renvoie son dossier à M. Van Brantegem, qui, alors, dans un temps que je trouve assez record d'ailleurs, avec seulement 2 assistants, consulte tous les dossiers et émet un avis positif ou négatif. Si l'avis est négatif, il demande un complément d'information et alors les clubs sont convoqués, pour certains d'entre eux, devant la commission des licences que j'évoquais il y a quelques instants. Bon, là, évidemment, vu l'actualité en 2020, ça s'est fait par vidéoconférence, mais donc, en général, c'est une comparution physique au siège de la fédération où les clubs renvoient qui un avocat, qui un réviseur d'entreprise, qui les deux défendent le dossier devant la commission des licences, apporter les pièces complémentaires qui faisaient défaut dans un premier temps et expliquer un petit peu la viabilité du club parce que depuis 2 ans ou 3 ans, il faudrait vérifier, ils sont beaucoup plus exigeants. C'est-à-dire qu'ils sont très insistants sur le principe de la continuité financière du club, un petit peu dans l'esprit de ce que l'UEFA a instauré avec le fair play financier. Donc il ne faut pas que les clubs vivent au-dessus de leurs moyens. En fait, l'idée sous-jacente de tout cela, c'est celle-là. Et donc, ils insistent beaucoup sur la continuité financière ou budgétaire du club, en tout cas sur le court terme, pour la saison suivante, donc pendant le cas qui nous préoccupe, la saison 2020-2021, avec toutes les garanties nécessaires, c'est-à-dire notamment ce qu'on appelle une lettre de confort. Il faut donc qu'une société se porte garante par des comptes bloqués, par un apport déjà au sponsoring ou quoi, ou comme des revenus financiers suffisants. Donc les clubs doivent faire des plans budgétaires et prévisionnels extrêmement précis, disant, nous comptons vendre tel et tel joueur en escomptant une telle et telle rentrée. En termes de sponsoring, nous aurons, en termes de marketing, nous aurons tant de recettes. Donc le club pourra assurer sa pérennité financière, du moins sur le court terme. Et parfois, ça coince devant la commission des licences, et ça a été spectaculairement le cas cette année-ci, puisqu'il y a 3 clubs de D1, dont le Standard, qui ont été recalés par la commission des licences, 4 clubs de division 1B, et de mémoire, 3 clubs de division 1 amateur. Ce qui veut dire que sur les 40 clubs impactés, globalisé, ça faisait quand même 10 clubs impactés. Donc ça veut dire que 25% des clubs n'ont pas reçu leur licence, qui est énorme et à mon avis inédit dans l'histoire du football belge récent. Et donc, tous ces gens n'ont plus qu'un seul recours dans la procédure, c'est de se pourvoir devant la CBS, la Cour belge d'arbitrage pour le sport, qui, comme son nom l'indique, est une cour d'arbitrage. Donc là, on sera dans un autre cas de figure, puisque ce sont d'autres personnes qui vont siéger, qui vont juger. Là, pour le coup, ce seront des juristes ou des avocats uniquement. Donc le principe d'une cour belge d'arbitrage pour le sport, comme toutes les cours d'arbitrage, c'est que chaque parti désigne un arbitre. Donc en l'occurrence, la Fédération belge de football désigne un arbitre parmi une liste qui est proposée, qu'on peut consulter d'ailleurs sur le site de la CBS. Les clubs concernés choisissent un arbitre aussi et les deux arbitres choisissent un troisième arbitre qui sera donc le président de la cour d'arbitrage composé de 3 personnes et évidemment chaque club vient avec ses avocats pour défendre les dossiers, parce que là, normalement, c'est le dernier recours, c'est la dernière étape de la procédure, puisque les jugements de la CBS sont réputés être exécutoires et définitifs, ce qui veut dire que derrière cela, en principe, il n'y a plus aucun recours. Je dis en principe parce que je sais que parfois que certains clubs ont des velléités d'aller devant des procédures de juridiction civile, mais ce qui est interdit par le règlement de la Pro League, la Ligue professionnelle de football, puisqu'il y a un gentleman agreement quand on ne s'attaque pas devant les tribunaux. Donc, mais il y a le cas de Virton cette année-ci qui est un cas assez intéressant. Virton a décidé de ruer dans les brancards, lui, puisque le club conteste le fondement même du système de licence, dénonçant une position d'abus dominant de la part de la Fédération belge de football et menant une action. Donc, ils vont aller devant la CBAS en disant nous ne sommes pas d'accord avec le système tel qu'il fonctionne actuellement. Donc, ils vont le contester sur le fond, sur la forme, puisqu'ils vont se battre pour obtenir leur licence. Et ils ont déjà annoncé, ce que je trouve assez harakiri, qu'ils allaient aller devant l'autorité belge de la concurrence, parce que pour eux, c'est une concurrence déloyale, puisque selon des critères extrêmement arbitraires, on donne la licence à certains et pas à d'autres. Et je crois que le cas échéant, eux, ils iront devant les juridictions civiles s'ils n'obtiennent pas la licence. Donc ça va être un combat intéressant à observer, parce que ça va peut-être remettre en cause tout ce système. Et en plus, je termine sur Virton, parce que c'est intéressant aussi, ils demandent qu'on gèle, qu'il y ait une sorte de moratoire concernant les licences, vu la situation sanitaire actuelle, puisque la Fédération autrichienne de football, par exemple, a accepté de reporter tout d'un an, et que l'UEFA, qui est pourtant de plus en plus stricte au niveau des règlements financiers, a accepté aussi un gel du fair play financier dont je parlais, d'un an, vu les circonstances.
Et justement, vous, donc, au vu de ce que Virton dénonce, donc beaucoup de discrimination selon eux dans la prise de décision entre les clubs, est-ce que selon vous, il y en a, ou alors il n'y a pas vraiment...
Oui, je pense qu'il y en a. Moi, de mon point de vue, parce que j'ai quand même bien étudié les dossiers, je ne comprends pas comment Anderlecht a pu obtenir sa licence, puisque dans le règlement... Il est marqué qu'une personnalité juridique ne peut exercer une influence notable sur un autre club et qu'on ne peut pas avoir non plus une personnalité juridique liée au club qui soit agent de joueur. Et à Anderlecht, on sait qu'il y a un agent de joueur qui est très influent, qui est Walter van den Hout, qui est un peu le conseiller spécial du président Cook. Alors, dans les attendus, ils estiment en plusieurs phrases un peu sibyllines, je trouve, que van den Hout n'exerce aucune influence dans l'exécutif du club. Moi, d'après mes informations, c'est inexact, mais bon, on est vraiment dans le domaine de l'arbitraire. En revanche, on est beaucoup plus dans le domaine de paramètres objectifs dès lors qu'il s'agit du dossier d'Ostende, puisqu'on peut considérer raisonnablement que Cook exerce une influence non seulement notable, mais de mon point de vue décisive sur Ostende, puisque c'est la créance d'Ostende à son égard qui n'a pas réussi à faire aboutir la vente du club à un groupe de repreneurs américains, même si je viens d'apprendre cet après-midi qu'apparemment ça va s'arranger comme par hasard et que Cook va mettre de l'eau dans son vin, comme ça Ostende va avoir sa licence et tout le monde sera content. Mais je pense que normalement, au vu du règlement, Anderlecht n'aurait pas dû avoir sa licence, et c'est pour ça qu'un club comme Virton a décidé de mener un combat tel qu'on le voit.
Oui, mais il y a un autre club, par exemple, on peut voir que Anderlecht, clairement un gros capital, a quand même beaucoup d'argent, mais il a aussi énormément de dettes à rembourser, mais lui a reçu sa licence. Alors qu'à côté de ça, on a le Standard qui, par exemple, a un moins gros capital, mais a moins de dettes, et lui n'a pas reçu sa licence. Donc est-ce que pour vous, il n'y a pas une sorte de deux poids, deux mesures dans la prise de décision pour les licences ?
De ce point de vue-là, à mon avis, non, parce qu'on en revient au fameux principe de continuité et de garantie financière. Évidemment, Mark Cook, il a une fortune énorme, puisque rien que la revente d'Omega Pharma lui a rapporté plus d'un milliard d'euros net d'impôts. Donc, on sait que lui, il a les reins solides. S'il se porte garant, c'est ce qu'il a fait pour la saison suivante. En revanche, le Standard a été un peu imprudent, pour ne pas dire amateur, dans sa gestion des dossiers des licences, puisque le seul moyen pour le Standard la saison prochaine de se remettre à flot financièrement, c'est-à-dire de combler le trou de 14 millions, c'est de vendre le stade. Donc, ils ont imaginé une opération parfaitement légale au demeurant de vendre le stade de la société Standard de Liège vers une nouvelle société immobilière du Standard de Liège, qui sont deux entités bien différentes, même si on y retrouve Bruno Venanzi des deux côtés. Et donc, cet achat de 14 millions doit permettre, en effet, d'apurer le déficit. Si ce n'est que le Standard, de façon incroyable, n'a pas présenté devant la commission des licences les liquidités de cette société immobilière qui, à l'heure où je vous parle, n'a toujours pas vu apparaître au moniteur et à la banque du Carrefour des entreprises l'augmentation de capital indispensable et par ailleurs la nomination des nouveaux administrateurs dans Axel Witsel. Donc, je comprends parfaitement la décision de la commission des licences, composée de 5 personnes en l'occurrence, flamandes, mais je ne veux pas y voir de relents communautaires, mais qui n'ont pas eu les garanties de cette société financière, immobilière, et les garanties financières. Donc là, c'est parfaitement logique, en revanche.
Et vous y attendiez que le Standard ne l'ait pas, ou...
J'avais envisagé cette éventualité, je l'avais même écrit la veille.
Parce qu'on va dire que pour un simple, pour nous, on ne s'y attendait pas du tout, mais est-ce que dans le monde un peu du foot, on avait entendu des bruits, ou est-ce qu'on s'y attendait ?
Non, parce que bon, moi je pense que je suis comme un journaliste bien informé sur ce qui se passe au Standard, donc j'avais écrit la veille que personne n'était sûr de sa licence, pas même le Standard. Ce qu'on savait dans le milieu, c'est que ça allait faire très mal globalement normalement que ça allait être un peu un carnage, hein, puisque je vous l'ai dit, 10 clubs, c'est quand même beaucoup. Mais ce que tout le monde sait, c'est que le Standard, depuis quelques années, vit au-dessus de ses moyens. Là, on boucle la boucle, on revient à la première question posée. C'est un peu pour ça qu'il y a du fair play financier. Je pense qu'il y a aussi une déclinaison belge du fair play financier de l'UEFA à l'échelon belge. Donc, c'est autre chose que la commission des licences, justement pour réguler un peu le marché. Et puis, c'est clair que maintenant, avec tout ce qui se passe, tout va être mis en question et qu'on va avoir un nouveau modèle économique qui va se mettre en place dans le monde du foot et que tout va être vu à la baisse, les salaires, les commissions d'agents, les montants des transferts, on va entrer dans une autre dimension.
Ouais. Est-ce que, selon vous, donc le club du Standard va forcément faire appel au CBAS, mais est-ce que, selon vous, vous croyez en une saison sans le Standard en D1A, ou alors justement en une saison avec le Standard, mais en D1A
Moi, je pense, quand je lis ça, je ne comprends pas que certains journalistes écrivent ça. Je pense que le fait que le Standard ait le Standard à 23 000 abonnés et est en division 1 depuis 1921, ça n'a aucune importance. Si on rend le droit comme doit le rendre le CBAS, la seule chose qui compte, ce sont les garanties financières pour la saison prochaine, que vous soyez le Standard ou un tout petit club. À mon avis, s'ils ne peuvent pas prouver d'ici là les preuves de l'augmentation de capital, on me répond que c'est à cause du confinement, mais je n'y crois pas puisque je me suis renseigné. Il y a des actes importants et urgents qui sont passés par les notaires avec des signatures par procuration, donc c'est parfaitement contournable le confinement. Donc si le Standard n'a pas cette possibilité-là pour des raisons X ou Y, c'est le président Venanzi qui se portera garant sur son patrimoine mobilier et ou immobilier. Donc je pense que le Standard aura sa licence, mais ça ne sera qu'une emplâtre sur une jambe de bois, puisque je rappelle deux choses, c'est que par définition, un stade, ça ne se voit qu'une fois, donc c'est un one-shot. Et d'autre part, je m'appuie sur les chiffres de Venanzi lui-même lors d'une conférence de presse informée il y a quelques mois, où il avait déclaré que le projet immobilier du Standard, du stade de Skelsen New Look, ça allait coûter 80 millions d'euros. Donc c'est un gros projet immobilier. Donc une chose est de financer l'achat du stade, mais autre chose sera de financer les travaux. Donc je pense que le Standard n'est pas sorti d'affaires sur le moyen terme et qu'à mon avis, ça passera immanquablement par l'arrivée de nouveaux partenaires et donc de nouveaux actionnaires. Oui, dans le club, dans l'immobilier ou dans les deux.
Oui, donc en gros, c'est un peu remettre le problème à plus loin, quoi.
C'est une rustine sur un trou pour avoir la licence pour la saison prochaine, mais le problème financier du Standard va rester important et récurrent. Et bon, en plus, avec tout ce qui se passe pour le moment, ça c'est valable pour tous les clubs de D1 belges, allez, hormis peut-être, enfin à coup sûr, Bruges, Genk et peut-être la Gantoise, tous les autres clubs belges sont à la ramasse hein, financièrement. Donc tout le monde a vécu au-dessus de ses moyens, on a payé beaucoup trop de commissions, je lisais le chiffre tout à l'heure, 44 millions d'euros entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, 44 millions de commissions d'agents sur un volume global de transfert de joueurs qui approche les demi-milliards d'euros, on est quasiment à 10%. En France, pour votre gouverne, il y a une loi qui plafonne les revenus des agents à 7% du salaire brut annuel du joueur. Donc ici, on est largement au-dessus. Donc l'absence de play-off 1, la probabilité d'avoir une reprise du championnat huis clos la saison prochaine, c'est un terrible manque à gagner pour les clubs et ça ne va rien arranger pour la suite des événements.
Oui, oui. Donc on rentre un peu dans une crise, quoi.
Ah, ça, pour y rentrer, je crois qu'on va y rentrer. Maintenant, il va falloir voir ce qui se passe aussi pour les droits télé, hein, puisque est-ce qu'il va y avoir une action en justice des actuels détenteurs de droits qui ont tout payé en Belgique ? Ce qui n'est pas le cas à l'étranger, puisqu'à l'étranger, on paye par tranche. Ici, ils ont tout payé. En tout cas, ici aussi, on paye par tranche, mais la dernière tranche a été payée en janvier. Ils n'ont pas tout le produit pour lequel ils ont payé, puisqu'il n'y a pas de play-off.
Ouais. Après, il faudra aussi attendre d'autres choses. Si on parle sur le club de stand qui, lui non plus, n'a pas reçu sa licence, que pensez-vous de l'initiative du KV au stand et de son entraîneur adjoint, Franck Berrier, qui a mis en place une cagnotte pour dire de récolter des fonds ? Est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher ou...
Non, mais je crois qu'au stand, ça va s'arranger, parce que je vous ai dit, Cook va mettre de l'eau dans son vin, parce qu'au stand, déjà, a renoncé à son action devant la CBAS d'attaquer la licence d'Anderlecht. Donc on voit bien que tout ça va s'arranger. Quoi. La situation financière de stand est dramatique. 2,7 millions pour avoir la licence, et il y a une créance de 6,2 millions de Cook, qui a fait une grosse embrouille pour revendre rapidement le club et vite acheter Anderlecht. C'est d'ailleurs que de là sont dus tous les problèmes, c'est qu'il a acheté précipitamment Anderlecht et qu'il a vendu précipitamment au stand. Et alors, il a fait passer dans le deal, il a vendu, mais ce n'est pas illégal, hein, mais c'est quand même très, très borderline. Il a vendu le club en dessous de sa valeur pour 1,5 million et il a augmenté le loyer de la tribune dont il est toujours propriétaire, faisant passer le loyer de 800 000 à 1,2 million par an. Et c'est là qu'il y a un lien entre lui et Ostende. D'autant que le loyer, il y a des arriérés de loyers impayés. Donc c'est bien la preuve qu'il exerce une influence notable à travers une société dont il est 100% actionnaire par rapport au club d'Ostende.
Oui, donc pour vous, le fait que Ostende n'ait toujours pas eu son investisseur américain, ça a quand même un lien avec Cook.
Mais c'est clair, puisque l'investisseur a fait même une proposition de rembourser toute la dette en 30 ans. Il a refusé. Donc, mais je pense que tout ça va s'arranger, quoi, puisqu'apparemment, il y a encore des gens dans le club qui sont proches de Cook et qui ne veulent pas avoir de problème, alors que l'avocat, apparemment, lui voulait aller jusqu'au bout. Mais Houston a fait un communiqué officiel en disant qu'il renonçait à son action de contester la licence dans la règle. Donc, ça veut dire beaucoup de choses.
Hein. Qu'est-ce qui pourrait se passer, du coup, pour Houston?
Moi, je pense qu'Houston va l'avoir. Je pense que Moucron ne l'aura pas à coup sûr. Enfin, moi, je ne suis pas devin, hein, mais oui, c'est clair que dans les 10 clubs concernés, il y en a qui ne l'auront pas. Ouais. Tout le monde ne l'aura pas, parce qu'on est toujours ouais, devant la CBS, tout le monde a sa licence. Bon, je pense pas que ce sera le cas cette année-ci.
Ça va être différent des autres années.
Je pense.